On s'insurge contre l'esclavage et on a raison. La Charte des droits de l'homme l'interdit, mais ça reste une pratique encore très répandue, sous une forme ou sous une autre, et qui, selon les pays, est à peine voilée, voire pas du tout. Aujourd'hui, tout se vend et s'achète, même des esclaves. Or, l'arrière-plan de tous les écrits bibliques, et en particulier du Nouveau Testament, est l'esclavage, qui était extrêmement courant et banal, puisque c'était l'état d'environ la moitié de la population de l'Empire romain. Leur qualité de vie, si on peut parler comme ça, dépendait entièrement de leur maître, parce qu'ils ne possédaient aucun droit. Pourtant, les auteurs sacrés ne critiquent pas l'esclavage. En effet, si Jésus et les apôtres avaient prêché contre, le résultat aurait été un chaos total. Toute insurrection se serait terminée dans un immense bain de sang et la bonne nouvelle de Jésus-Christ aurait été confondue avec un message de réforme sociale. Ce n'est pas tout, car il faut également prendre en compte le fait qu'au 1er siècle, la condition des pauvres libres était souvent pire que celle de la plupart des esclaves. En effet, comme ces derniers accomplissaient tout le travail, les affranchis n'en trouvaient pas. Ceci dit, même si le christianisme ne s'est pas attaqué de front à l'esclavage, il en a fissuré les fondations, car la transformation des cœurs opérée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ a fini par détruire l'esclavage sans révolution sociale. La lettre de Paul à son ami Philémon illustre ce principe. L'apôtre ne critique pas cet homme qui possédait un esclave du nom d'Onésime et ne lui demande pas de le libérer. Mais en le priant de le traiter comme un frère, Paul ôte l'aiguillon de l'esclavage et mine cette plaie sociale de l'intérieur. Le sujet de cette épître concerne donc Onésime qui s'est enfui de chez son maître après, semble-t-il, l'avoir volé. Il se réfugie à Rome en espérant ainsi se noyer dans la masse de la ville impériale. C'est alors qu'il entre en contact avec Paul sans que l'on sache comment. On pourrait cependant imaginer qu'une fois à Rome, l'ivresse de la liberté fut rapidement suivie d'une gueule de bois. En effet, il s'est enfui de chez son maître, qui lui fournissait le logis et le couvert, et qui n'était probablement pas un mauvais bougre puisqu'il était croyant. Se trouvant isolé et sans ressources, Onésime s'est alors souvenu que son maître avait parlé de l'apôtre Paul, qui était alors assigné à résidence à Rome. Alors, il s'est mis à sa recherche, l'a trouvé, et c'est ainsi qu'il se serait converti. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ces deux hommes s'appréciaient beaucoup, puisque Onésime a rendu de loyaux services à Paul, qui s'est attaché à lui. Cependant, comme Onésime appartient à Philémon, pour des raisons morales, l'apôtre ne peut pas le garder auprès de lui sans le consentement de son maître, et de plus, il se serait rendu complice d'un esclave en fuite, ce qui violait le droit romain. Paul décide donc de le renvoyer à Philémon, accompagné d'une lettre lui demandant de recevoir Onésime comme un frère, comme si c'était l'apôtre lui-même. Dans cette lettre à Philémon, Paul, ne voulant rien imposer à son ami, il n'use pas directement de son autorité d'apôtre, mais fait appel à l'amour chrétien et aux liens d'amitié qui l'unissent à Philémon. Paul se propose même de le dédommager pour ce qu'Onésime lui aurait dérobé, tout en lui rappelant, avec diplomatie, que c'est grâce à lui qu'il a connu Jésus-Christ. En outre, l'apôtre écrit qu'il désirerait qu'Onésime lui soit envoyé. Alors que dans certaines épîtres, Paul est très sévère ici, il se montre plein de tact, de délicatesse et d'humilité. Les liens de cette lettre avec celle que l'apôtre adresse aux Colossiens indiquent qu'elles ont été écrites en même temps. Paul est en prison, à Rome, et il est entouré du même cercle de collaborateurs. Et c'est Tychique, le porteur de l'épître aux Colossiens, qui accompagne Onésime sur le chemin du retour. Je commence maintenant à lire la lettre à Philémon. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Versets 1 et 2. D'habitude, Paul commence toujours ses lettres en soulignant son apostolat et son autorité. Mais comme il s'agit d'une lettre amicale et qu'il n'a pas à défendre son autorité, il mentionne sa situation personnel. Curieusement, Bien que Paul se trouve dans les griffes de Rome, il se considère le prisonnier de Jésus-Christ, car c'était en le servant et par sa volonté qu'il était dans les chaînes. L'apôtre croyait vraiment que c'était Dieu qui gouvernait les affaires des hommes. Par ailleurs, en rappelant son état de prisonnier, il dit en substance « Si je peux faire face à ma situation difficile, toi, Philémon, tu pourras facilement faire ce que je vais te demander. » L'apôtre mentionne Timothée dans son introduction parce qu'il est en sa compagnie lorsqu'il a rédigé cette missive et que ce dernier avait fait la connaissance de Philémon à Éphèse. Cette lettre est également adressée à Appia, Archip et aux chrétiens qui avaient l'habitude de se réunir dans leur maison. Comme l'apôtre ne s'est jamais rendu à Colosse, Philémon s'était certainement converti à Éphèse où Paul exerça un ministère pendant plus de 2 ans. Philémon était donc un homme d'affaires de condition aisée puisqu'il possède des esclaves et une maison suffisamment grande pour des réunions d'église. Appia est vraisemblablement son épouse et Archip leur fils. L'apôtre appelle cet homme notre compagnon d'armes et on sait qu'il exerçait des responsabilités dans l'assemblée de Colosse. Peut-être même que Archip a remplacé Aristarque comme pasteur pendant l'absence de ce dernier. Cette lettre est d'abord adressée à Philémon parce qu'il est le chef de famille, mais aussi à sa femme, leur fils et à l'église parce que Paul traite du pardon et de la communion entre frères de différentes classes sociales qui sont des sujets qui concernent toute la communauté. Alors que dans d'autres épîtres, l'apôtre parle des relations nouvelles qui doivent exister lorsque maître et serviteur sont croyants. Ici, il explique comment cette réalité doit fonctionner. Je continue le texte. « Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. » Verset 3. C'est la salutation d'usage que l'apôtre utilise dans les 13 épîtres qu'il a écrites. « Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur accordent ensemble la grâce et la paix. » Cette petite phrase affirme la divinité du Christ et son égalité avec le Père. Je continue. « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. » Versets 4 et 5. Paul commence la lettre par une louange qui n'est pas une flatterie car tout laisse à penser que Philémon était vraiment un homme vertueux, connu pour sa foi et son amour envers le Seigneur et envers les autres croyants. Et c'est d'ailleurs sur cette base que Paul va faire sa requête. Je continue. « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ » soit rendu manifeste. Verset 6. La foi du Nouveau Testament ne relève pas uniquement du domaine privé, mais possède aussi une dimension communautaire qui se répercute sur les rapports des individus entre eux. Dans les églises du 1er siècle, la communion fraternelle était très concrète et les croyants s'entraidaient vraiment les uns les autres. Si, comme on le croit, Philémon a pardonné à son esclave, cet acte a forcément eu un effet positif sur les membres de l'Église qui se réunissaient dans sa maison. Je continue. « Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet tranquillisé le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » Verset 7. Le mot traduit par « tranquilliser » signifie « se reposer après une marche ». Philémon ne semble pas occupé de fonctions officielles dans l'Église, mais il était une source de bénédiction et de réconfort pour les autres, et sa maison était un véritable foyer d'amour ouvert à tous. Je continue. « C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande « au nom de l'amour étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. » Versets 8 et 9. Ne voulant pas user de son autorité apostolique, Paul s'adresse à Philémon en tant qu'ami et s'appuie sur son caractère vertueux qu'il vient juste de rappeler pour faire sa demande. Ceci dit, l'apôtre savait qu'il ne serait pas facile à Philémon d'oublier le mal que son esclave lui avait fait, surtout qu'il était probablement là, debout devant lui. Alors, pour attendrir le cœur de son ami, Paul mentionne son double statut de vieillard et de prisonnier. À cette époque, les personnes âgées jouissaient d'une réputation de sagesse qui commandait leur respect. Paul avait alors dans les 60 ans, mais faisait sans doute plus que son âge à cause de toutes les souffrances qu'il avait endurées tout au long de son ministère. En rappelant son état de prisonnier, Paul souligne aussi qu'il a besoin d'aide et donc d'Onésime, qui devait être relativement jeune, pour l'assister dans sa vie de tous les jours et dans son travail pour le Seigneur. Je continue. « Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. » Verset 10. Paul entre maintenant dans le vif du sujet et présente sa requête. Il appelle Onésime son enfant, littéralement « mon propre fils », un terme affectueux qu'il utilise aussi pour Timothée et Tite. On sait qu'à cette époque, un esclave qui se brouillait avec son maître pouvait aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui était en mesure d'intervenir en sa faveur. C'est ce qu'avait fait Onésime, sachant que son maître avait le plus grand respect pour l'apôtre. Et c'est ainsi, je le rappelle, que Paul avait amené Onésime à la foi. Je continue. Autrefois, Onésime t'était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Verset 11. Ici, Paul joue sur les mots car « Onésime » veut dire « utile ». Il déclare à Philémon que cet esclave qui est debout devant lui n'est plus inutile comme auparavant, mais qu'ayant été radicalement changé par la grâce de Dieu, il est désormais utile à Paul ainsi qu'à Philémon. C'est vrai, puisque l'apôtre le dit, mais aussi parce qu'il est repentant. En effet, il faut bien voir qu'Onésime a accepté de retourner chez son maître, qui avait pourtant le pouvoir de le punir sévèrement. Je continue. « Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. » Verset 12. En désignant Onésime de cette manière, Paul met son ami sous pression dans une cocotte minute. L'apôtre était passé maître dans l'art de la persuasion amicale, car comment Philémon pourrait-il refuser d'accéder à la demande du vieil apôtre emprisonné, attaché à cet esclave, transformé par la grâce de Dieu? C'est impossible. Je continue. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. Versets 13 et 14. Paul place Onésime sur le même pied d'égalité que Philémon, dans le sens que l'un comme l'autre pouvait lui être également utile alors qu'il était dans les chaînes pour Jésus-Christ. L'apôtre aurait voulu garder l'esclave auprès de lui afin qu'il soit à son service, ce que son maître ne pouvait évidemment pas faire puisqu'il était dans la ville de Colosse. Au vu du caractère vertueux de Philémon, Paul est persuadé qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour soulager son emprisonnement. Mais étant donné ses responsabilités, il n'était pas possible à Philémon de se rendre à Rome. Par contre, Onésime pouvait le remplacer. Seulement l'apôtre ne voulait pas tirer sur la corde en profitant indûment de l'amitié de Philémon. Alors, et par devoir, il lui a renvoyé Onésime. Ici, Paul est doux dans ses paroles et droit dans ses actions, mais en même temps, il fait monter la pression d'un cran supplémentaire dans la cocotte minute, car maintenant Philémon est obligé de faire un choix. Soit il punit et garde Onésime, soit il lui pardonne, l'affranchit et le renvoie à Paul. Je continue. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur? Versets 15 et 16. Paul contraste la condition d'esclave d'Onésime et sa nouvelle relation de frère très cher de Philémon. L'apôtre ne réclame pas son affranchissement, mais il compte sur son ami pour l'accueillir comme un frère en Jésus-Christ. Dans sa providence, Dieu avait transformé en bien le mal qu'avait commis Onésime. Maître et esclave avaient été séparés pour un temps alors qu'ils étaient dans un rapport conflictuel afin de se retrouver pour l'éternité dans une relation entièrement nouvelle de frères en Jésus-Christ. De plus, maintenant que Philémon et Onésime étaient tous deux croyants, ils pouvaient aussi avoir des relations normales d'homme à homme. Comme j'ai déjà dit, le christianisme n'a pas entrepris d'abolir l'esclavage, ni d'ailleurs d'autres réformes sociales, mais s'est efforcé de rendre les relations entre maître et esclave plus humaines et plus justes. L'enseignement de cette lettre s'applique aussi aux relations entre patrons et employés, entre le grand capital et le monde ouvrier. Je continue. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. Versets 17 et 18. Ici, Paul formule clairement sa demande et si Philémon l'avait rejeté, il aurait donné un soufflet à l'apôtre, ce qui est une éventualité impensable. Dans une perspective chrétienne, on peut voir derrière la requête de Paul pour Onésime celle de Jésus-Christ auprès de son Père en faveur de chaque pécheur qui vient à lui. La carte de crédit en plastique date peut-être du XXe siècle, mais le crédit est un très vieux concept. En effet, quand Paul dit « Si tu as été lésé par Onésime ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte », on voit que l'apôtre possédait un crédit auprès de Philémon. Ce passage illustre aussi les concepts de substitution et d'imputation qui ont lieu entre Jésus et le pécheur. En effet, le Christ a pris sur la croix la place de ceux qui ont placé leur confiance en lui et en échange, il leur donne son statut de juste. Les croyants sont donc accueillis dans les cieux au même titre et de la même manière que Jésus lui-même parce que les droits qu'ils font valoir devant Dieu le Père sont ceux que Jésus leur a donnés. Quand un pécheur vient à Jésus-Christ et reçoit en son nom le pardon des péchés, c'est comme si le Seigneur déclarait à son Père « Tout le tort que cette personne t'a fait, mets-le sur mon compte. » Je continue le texte. « J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. » Verset 19. En disant qu'il écrit de sa propre main, Paul utilise la formule et la pratique légale de celui qui apporte une garantie personnelle. Il ne se contente pas d'une promesse en l'air, mais agit selon les règles en vigueur à cette époque. Bien qu'il fût en résidence surveillée, l'apôtre pouvait toujours disposer de ses biens comme il le voulait. Ceci dit, il rappelle aussi à Philémon qu'il lui est redevable, puisque c'est par lui qu'il a connu Jésus-Christ. Or, cette dette-là, étant de nature spirituelle et éternelle, elle ne peut pas être remboursée. En substance, l'apôtre suggère « Allez, on efface toutes les dettes de tout le monde et on n'en parle plus. » Soit dit en passant, c'est aussi comme ça que les croyants sont appelés à agir vis-à-vis de ceux qui les ont offensés d'une manière ou d'une autre, car devant Dieu, ils doivent tout leur pardonner. C'est en tout cas l'enseignement de Jésus. Je continue. « Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. » Verset 20. Paul fait un jeu de mots car faveur a la même racine que onésime qui veut dire utile. En effaçant l'ardoise de son esclave, Philémon tranquillisera le cœur de l'apôtre tout comme il tranquillisait le cœur des croyants. Il est donc impossible à Philémon de faire moins envers Paul qui est son ami et père spirituel. Je continue. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. Verset 21. Ici, Paul demande sans détour que Philémon accueille et pardonne à Onésime et il s'attend encore à davantage. Selon la tradition, Onésime aurait été affranchi et plus tard serait devenu l'un des responsables de l'église d'Éphèse. Ce parcours d'Onésime montre comment le christianisme abolit l'esclavage de l'intérieur sans révolte, sans répression ou chaos social. Je continue. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Verset 22. Paul pense que son emprisonnement touche à sa fin grâce aux croyants qui intercèdent en sa faveur. La perspective de la venue prochaine de l'apôtre donne un coup de pouce supplémentaire à Philémon qui va devoir réagir rapidement à sa demande en faveur d'Onésime. Il est certain que Philémon a répondu favorablement à Paul, sinon cette lettre n'aurait pas circulé dans les églises apostoliques et ne ferait pas partie du Nouveau Testament. Je continue. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Verset 23. Ces cinq personnes sont également mentionnées dans l'épître aux Colossiens. Tychique, le porteur de la lettre aux Colossiens et accompagnateur d'Onésime, n'est pas mentionné parce qu'il donnera ses salutations en personne. Je finis l'épître à Philémon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Verset 25. Paul termine toutes ses épîtres par une bénédiction semblable. À la banque céleste, chaque croyant possède un compte en grâce qui lui sert d'argent comptant et qui lui permet d'obtenir de Dieu ce dont il a besoin. L'apôtre explique comment tirer des chèques de ce compte quand il écrit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. »